Je ne sais pas pour toi, mais en cette fin de saison 2021, personnellement, Rafael Nadal et Roger Federer me manquent. C'est pourquoi Rémi Bourrière et Christophe Perron ont eu l'excellente idée de sortir un livre qui retrace les 40 matchs de légende entre ces deux mythes, Fedal, qui est bien évidemment la contraction de Federer et Nadal. Dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec les deux auteurs pour comprendre un petit peu leur motivation, comment ils ont écrit cet ouvrage, et surtout pour ton plus grand bonheur, tu vas pouvoir tenter de gagner un exemplaire de Fedal. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous dire dans les commentaires quel est ton Fedal favori et pourquoi. On va relayer également le jeu concours sur Twitter, ainsi tu pourras optimiser tes chances d'être tiré au sort. Je t'en dis pas plus et je te laisse avec mon entretien avec Rémi Bourrière et Christophe Perron. Bon bah bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en présence des deux auteurs de Fédal, Rémi Bourrière et Christophe Perron. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation.
Merci à
Merci.
toi pour l'invitation. Merci beaucoup.
Du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que chacun peut se présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Christophe?
Oui, bah j'y vais. Alors, Christophe Perron, j'ai 34 ans, je suis journaliste dans le tennis depuis presque une dizaine d'années, ça passe vite. Voilà, j'ai travaillé pour plusieurs médias, notamment Canal+. Là, je travaille toujours pour Canal+. J'ai aussi travaillé à Tennis Magazine où j'ai rencontré Rémi. J'ai travaillé pour Courts, un peu pour la FFT. Et puis voilà, dernier projet en date, c'est ce livre qu'on vient de publier ensemble avec Rémi.
Et toi, Rémi?
Oui, salut, ben moi c'est donc Rémi, 43 ans, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années dans le tennis, donc j'ai passé pas mal d'années à Tennis Magazine, où j'étais rédacteur en chef adjoint et où Christophe Perron était mon stagiaire, qu'on s'est effectivement rencontré là-bas. Depuis maintenant, je travaille toujours dans le tennis en freelance pour plusieurs médias, notamment Eurosport, la Fédération française, Tennis Major. Un petit peu course également, et puis voilà.
Ok, ça marche. Et
Il a
du coup,
précisé que Rémi m'a tout appris. Hein.
ouais, c'est ça, ouais. Le maître et l'élève.
Ouais, et puis je rappelle aussi son insolence, parce que depuis, on joue au tennis régulièrement ensemble, et il me bat très régulièrement aussi. Comme quoi le respect est mort dans ce monde, mais bon, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, quelles ont été à chacun vos motivations de ce projet Fédal? Comment ça s'est passé, la discussion, et derrière, comment vous êtes répartis chacun les tâches, les matchs à voir, et dans quelles conditions vous avez regardé chacun de ces matchs de Federer et Nadal? Rémi?
Oui, moi ça fait un petit moment en fait que j'avais envie de parler de cette rivalité qui est une rivalité qui me tient à cœur parce que c'est j'ai passé donc 12 ans à Tennis Magazine entre 2007 et 2019 qui correspond pratiquement pile poil en fait au laps de temps de leur rivalité. Donc c'est vrai que j'ai assisté à pas mal de leurs matchs, ça a marqué vraiment ces années-là. Donc ça m'a marqué à titre personnel. Et après, en discutant avec Christophe, après une partie de tennis justement, je crois que c'était de mémoire, c'était à l'été 2019, ils venaient juste de se jouer en demi-finale à Wimbledon et c'est leur dernier affrontement à ce jour. Donc on en parlait, on s'étonnait qu'il n'y ait jamais eu de rien de fait à propos de cette rivalité qui est peut-être la rivalité la plus marquante de l'histoire du tennis, et même qui a dépassé le cadre du tennis, hein, c'est une rivalité marquante de l'histoire du sport en général. Donc voilà, en plus de ça, ça a pris quelques mois de discussion. Et après, le projet s'est véritablement lancé au début 2020, à une période aussi où le coronavirus est arrivé. Il y a une baisse d'activité, les tournois ont été mis en stand-by et tout. Donc ça a correspondu aussi à une période où il y avait moins d'activité tennis et où on a pu prendre ce temps de développer ce projet. Voilà.
Quelque chose
Je sais pas si
d'autre à
tu as la
dire,
même,
Christophe?
Christophe, peut-être une autre motivation, toi, je sais pas.
Non, non, non. Non, non, c'est exactement ça. Voilà, le projet, c'était de parler de cette rivalité. Et puis ensuite, voilà, en discutant avec notre éditeur aussi, on a choisi ce parti pris de vraiment partir des 40 matchs, puisqu'en plus, on a un chiffre rond, 40 matchs, 40 chapitres. Et ouais, l'idée, c'était vraiment de proposer une espèce de best-of, hein, d'intégrale en tout cas du Fedal, de cette rivalité. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Rafa et de Roger qui sont aussi un peu nostalgiques de cette période dorée du tennis et qui, je pense, ont envie de se replonger dans le récit de ces matchs, de picorer quelques bons souvenirs.
Et du coup, là, c'est pour l'idée, l'initiation du projet. Et derrière, la concrétisation, ça s'est fait comment?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions entre nous. Il y avait plusieurs manières de faire, en fait, hein, de parler de cette rivalité. On a réfléchi à plusieurs angles. L'un des angles possibles était de procéder plutôt par thème, voilà, de parler de leur rivalité en découpant des thèmes bien distincts, comme par exemple, je sais pas, la rivalité technique, en fait, qu'est-ce qui les oppose techniquement, qu'est-ce que opposent leurs fans, qu'est-ce qui... C'est vrai, comme disait Christophe, on a pas mal discuté avec l'éditeur. On avait peur peut-être de tomber aussi là-dedans dans quelque chose qui a déjà été fait, finalement, à travers de nombreux articles de presse. Voilà, la rivalité fédéraire a été quand même longtemps évoquée. Peut-être on avait peur aussi un petit peu de retomber dans une certaine subjectivité. Finalement, le parti pris donc, a été de procéder comme ça, dans une sorte d'anthologie, quoi, de recueil de tous leurs matchs, en étant le plus neutre et le plus impartial possible. Et en prenant beaucoup de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que Fédal, c'est aussi un thème assez sensible, hein, quand même. Les deux ont des communautés de fans assez, assez réactifs, assez présents et assez, assez susceptibles aussi. Hein. C'est compliqué, hein, parfois, de critiquer l'un ou l'autre. Ben, nous, on a voulu, voilà, essayer d'afficher une totale impartialité et aussi ouais, essayer de prendre un peu de recul. Et de temps en temps, dans le bouquin, ça nous arrive, hein, de les égratigner un petit peu, de dire voilà, il y en a un qui a eu telle réaction, il a balancé une balle, il s'est énervé, il a pris un temps mort. Enfin, voilà, on a essayé de prendre ce recul-là. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, on a essayé.
Non, je pense que le résultat est très, très bon par rapport à tout ça. Et du coup, la répartition des matchs, c'est un chiffre rond, donc ça a fait 20-20.
Alors, on a tout regardé chacun, mais après, au niveau de la répartition, effectivement, de la rédaction, on a réparti 20 matchs chacun. On a fait par période, on s'est réparti certaines périodes pour pouvoir avoir l'enchaînement des matchs, rester dans le contexte de l'époque. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. C'est vrai que ça a pris un certain temps, hein, de regarder tous ces matchs, puisqu'il y a près de 100 heures, je crois.
Ouais, 95 heures, 55 minutes, je crois, de mémoire.
Donc, je vous rassure, on n'a pas fait ça d'une traite. Mais c'était vraiment plaisant, hein, de se replonger dans ces archives. Il y avait des matchs qu'on avait complètement oubliés, hein, faut le dire, d'autres évidemment très marquants dont on se souvenait, mais avec le temps, voilà, on redécouvre l'évolution de ces personnages. On voit l'évolution, par exemple, je sais pas, même du style vestimentaire, des coupes de cheveux. Enfin, c'est assez amusant de comment ils ont évolué, leur personnalité aussi, leur réaction en conférence de presse. Et donc on s'est vraiment pas ennuyé. Franchement, il y a assez peu de matchs qui sont chiants. Voilà, bon, autant dire le mot. on s'est pas trop ennuyé.
Non, c'est vrai. Même les matchs en sens unique, en fait, on s'est aperçu qu'il se passe toujours un truc, en fait, dans un fédal, quoi. Il y a toujours, à un moment donné, je sais pas, un coup de génie, un coup de grisou. Enfin, il se passe toujours un truc, même dans les matchs les plus les moins serrés, hein, comme par exemple, je sais pas, la victoire la plus expéditive de Nadal, c'est la finale de Roland 2008. Celle de Federer, c'est le match au Master en 2007, qui dure moins d'une heure. Mais malgré tout, dans ces matchs-là, on s'ennuie pas, comme dit Christophe. Il y a toujours des voilà, c'est quand même deux champions extraordinaires qui ont toujours quelque chose dans la raquette à proposer, même si quand ils sont dans un mauvais jour, et on s'est jamais ennuyé. On a toujours découvert un truc nouveau, quoi.
Et du coup, comment ça se passe, la rédaction? Chacun, au début, vous plongez dans les archives. Je dis, bon, sur ce match, je vais me faire tous les articles pour savoir un petit peu l'avant-match, leur parcours respectif, dans quelle forme ils étaient. Après, il y a le visionnage du match, donc en fonction de la durée du match. Et après, il y a l'après, de savoir si le joueur a gagné le tournoi, s'il a perdu au tour d'après, sa conférence de presse, ses sensations, etc. Ça se passait comment?
Alors, chacun sa technique, peut-être. Moi, je sais pas, j'avais la mienne. Peut-être que Christophe avait une différente. Moi, la mienne, effectivement, non, je regardais le match d'abord, mais toujours dans les conditions du direct, parce que ça, c'était l'autre parti pris éditorial assez marquant, c'était de le raconter dans les conditions du direct. C'est-à-dire que quand on prend un chapitre, puisque donc c'est 40 chapitres, 40 matchs, la plupart du temps, même quasiment tout le temps, à part une ou deux exceptions près, des matchs pas serrés du tout, mais la plupart du temps, on ne connaît pas le vainqueur avant d'avoir lu le dernier chapitre. Donc, moi, j'ai regardé de la même manière, en fait, dans les conditions du direct. Sans connaître, alors évidemment je connaissais quand même le vainqueur la plupart du temps, mais pas toujours. Il y a eu un ou deux matchs, j'étais pas complètement sûr, hein. Je sais pas, des matchs à Indian Wells ou à Cincinnati, j'étais pas complètement sûr du vainqueur. Il y en avait un ou deux comme ça, j'étais pas sûr. En tout cas, je connaissais pas le score à chaque fois, donc je regardais comme ça sans connaître le score. Et même quand on connaît le vainqueur, il y a quand même voilà, c'est Il y a un petit suspense par rapport à ça. Et après, une fois que j'avais vu le match, donc le match, ça prenait quand même un certain temps à prendre, à regarder, parce qu'il faut... Un match de 3 heures, par exemple, ça prend au moins 4 heures à regarder, parce qu'il y a toujours des moments de pause, des moments où on revient un point en arrière, où on fait un arrêt sur image, où on revisionne un point. Et après, je regarde effectivement tous les articles de presse. Moi, j'ai toute une collection de Tennis Magazine chez moi. Et puis sur Internet, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Il y a toutes les conférences de presse, notamment. Voilà. Donc chaque match, pour un match qui dure 3 heures, ça prend... ça prend moins 2 jours de travail à chaque fois, parce qu'il y a tout un travail annexe qui prend beaucoup plus de temps que le match en lui-même, finalement.
Et toi, Christophe, ouais, du coup, tu avais la même façon de procéder ou...
Oui, à peu près. Ouais, le défi de chaque match, c'était à la fois d'essayer de rendre la dramaturgie du match, mais aussi d'aller chercher, si possible, des petites anecdotes qui vont agrémenter un peu le récit. C'est aussi ça, je pense, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, pour à chaque fois raconter quelque chose de leur rivalité, un petit truc qui s'est passé en dehors du court, une déclaration qui va raconter Federer ou Nadal ou l'histoire de leur relation, par exemple. Mais sinon, oui, j'ai procédé à peu près de la même façon que Rémi. Le plus important, c'était vraiment de prendre son temps pour regarder le match. Et moi, je notais vraiment parfois des tout petits détails. Hein. C'est aussi ça qui est sympa, c'est de se plonger vraiment dans un petit geste de Nadal qui va regarder Federer du coin de l'œil. Enfin, parfois, c'est l'avantage de pouvoir regarder a posteriori aussi, c'est qu'on peut vraiment se poser et essayer de tout décortiquer. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire et on a pris du temps à regarder ces matchs. Et encore une fois, c'était assez agréable.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme c'était fait à la volée, entre guillemets, match après match, ben peut-être sur un match, tu disais, tactiquement, il s'est trompé sur ça, ou il aurait dû faire ça comme ça. Et après, sur le match d'après, que tu vois, peut-être sur une autre surface ou sur une autre période, ben tu dis, c'est bien, sur ce set, il a réussi à mettre en place quelque chose que dans le match d'avant, ben finalement, ça n'avait pas forcément fonctionné.
Ouais, c'est vrai. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a procédé, comme disait Christophe au début, par période. C'est-à-dire que les 20 matchs, on ne se faisait pas répartis un match sur deux. Hein. C'était plutôt des grandes périodes. Parce que déjà, quand on fait un match, c'est plus facile d'avoir fait le match précédent parce qu'on connaît le contexte. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on note des différences. On note surtout des différences chez Federer, en fait. Chez Nadal, c'est plus ou moins toujours à peu près la même chose. Il a beaucoup fait évoluer son tennis à travers sa carrière, mais les bases sont toujours à peu près les mêmes. On a découvert effectivement que Federer s'était posé beaucoup de questions tactiques contre Nadal à travers ses matchs. Il y a eu des matchs où il y a beaucoup de matchs où il a essayé de le prendre à son propre jeu, notamment au début de leur rivalité, peut-être à tort d'ailleurs, en essayant de jouer Nadal sur la régularité du fond de court. Et puis après, il y a eu d'autres matchs où il a été ultra offensif. Il a essayé de mixer un petit peu les deux. Donc il y a pas mal de phases comme ça, et jusqu'à la fin de la rivalité où là par contre il est reparti sur un schéma ultra offensif qui a mieux fonctionné qu'à une certaine période aussi, parce qu'il a fait ses progrès en revers dont on a beaucoup parlé, et puis également parce qu'il a affronté Nadal quand même dans des surfaces assez rapides, hein. Donc Federer a gagné 6 de leurs 7 derniers matchs, hein, je crois, mais c'était beaucoup sur des surfaces très rapides, hein, à Shanghai, en Australie qui était rapide aussi cette année-là, enfin voilà. Et c'est vrai qu'il avait, il était bien servi par ses gros progrès techniques en revers qui lui ont permis de prendre la balle encore plus tôt, ce qu'il n'arrivait pas forcément à faire, en tout cas moins bien au début de leur rivalité. Quoi.
Toi, Christophe, même constat ?
Ouais, c'est marrant, ces retournements de situation tactique. On a des grandes périodes dans cette rivalité. Il y a le moment où on sent Federer qui est complètement perdu. Enfin, perdu, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas désarçonné par le tennis proposé par Nadal. C'est vraiment, il a trouvé le joueur parfait pour l'embêter. Et puis, comme tu l'as dit, Rémi, en 2017, il y a cette inversion très surprenante parce que Federer, il a 35 ans et il arrive à trouver un nouveau tennis hyper offensif, hyper panache. Et à l'inverse, c'est Nadal qu'on voit vraiment sans solution, hein, sur ses matchs en 2017. On sent qu'il ne sait plus quoi faire. Parfois, il tente des choses un peu contre nature, mais donc c'est marrant de voir que effectivement tactiquement ils ont su à chaque fois s'adapter, rebondir, et il y a eu beaucoup d'adaptations de part et d'autre et beaucoup de phases différentes dans cette rivalité.
Et du coup, dans ces 40 visionnages, est-ce que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises en se disant, bah, par exemple, ce match, finalement, à l'époque, j'avais un super souvenir. En le revisionnant, bah, il n'est peut-être pas si bien que ça. Ou à l'inverse, ce match, bah, finalement, il était passé presque inaperçu à l'époque. Et en le revoyant, bah, finalement, il y a des choses intéressantes à en tirer. Et il est peut-être mieux que prévu. Est-ce que ça vous est arrivé ou au final, bah, les gros matchs qu'on connaît tous des deux, bah, finalement, étaient quasiment les mêmes et c'était confirmé après ces différents revisionnages?
Oui, moi ça m'a fait le coup, surtout dans ce sens-là, en fait, des matchs qui étaient peut-être tombés un peu dans l'oubli et qui m'ont, enfin, sur lesquels j'étais vraiment été agréablement surpris. Ça me l'a fait en fait quasiment pour tous, y compris pour des matchs, même pour des matchs complètement à sens unique, comme la finale de Roland-Garros 2008, pour en reparler, qui est une boucherie absolue, sur le plan du score en tout cas. Mais franchement, la revisionnant, il y a un passage dans le match qui est beaucoup plus équilibré que la mémoire collective en retient. C'est le début du deuxième set, jusqu'à 3 partout de mémoire. Et il y a vraiment un match. Federer a même une balle de break à 3 partout, me semble-t-il, qui est tout à fait jouable. Finalement, il la rate. Et là, à nouveau, ça va basculer dans la boucherie. Mais il y a un moment du match où c'est vraiment intense et il y a vraiment un combat. Et je n'avais pas du tout ce souvenir-là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des matchs, je pense par exemple à Cincinnati 2013. Donc c'est une année très compliquée pour Federer parce qu'il a beaucoup de problèmes au dos. Il vient de perdre au deuxième tour à Wimbledon contre Stakowski. Alors pour lui, c'est un désastre. Derrière, je ne sais pas si tu te rappelles, mais donc il se pose beaucoup de questions, il change de raquette. Il part faire la tournée du mois de juillet sur terre battue à Stade, à Hambourg, où pareil, il perd en fait avec sa nouvelle raquette. Enfin, c'est vraiment une
période assez noire. Ouais, c'est sur Delboni, je crois.
Ouais. Daniel Bond,
peut-être. Ouais. C'est vraiment une période noire et il arrive à Cincinnati. À l'inverse, c'est une des meilleures années de Nadal. Hein. Qui revient début 2013, alors que lui, il sort d'une blessure au genou. Il revient début 2013, il gagne tout. C'est une année stratosphérique pour lui. Il se retrouve à Cincinnati. Donc là, on pense quand même que ça va être... une boucherie à nouveau pour Nadal. Et en fait, il y a vraiment un énorme match. Federer gagne le premier set.
Il est même à deux doigts de gagner. Je ne sais plus s'il a le break dans le deuxième ou
pas loin. Alors, je ne sais plus les détails.
Il faudrait que je relise mon livre. Je sais que sur dur, jusqu'à l'US Open, c'est quasiment le joueur qui a le plus inquiété Nadal.
C'est marrant parce qu'en fait, sur ce match, autant Nadal est un joueur qui a instillé le doute dans son esprit comme aucun autre auparavant, autant c'est aussi le joueur contre lequel il a eu des espèces de revival, peut-être comme sublimé par cette rivalité justement. Mais donc Cincinnati, donc à cette époque-là où il est dans le gouffre, il retrouve comme par magie presque tout son tennis. Il finit par perdre en 3-7, un peu sur le physique quand même.
Parce qu'il se fait rattraper au troisième set. C'était soit il gagne en 2, soit sur le troisième, il se fait rattraper.
Un peu, mais j'étais vraiment agréablement surpris par ce match également. Voilà, toi aussi Christophe, je crois que ça t'a la fait. Je me rappelle que tu m'avais parlé notamment du dernier, en fait, de la finale de Wim.
Honnêtement, hein, j'ai eu que des bonnes surprises, franchement. Hein. La finale de. Alors, début de leur rivalité, l'année 2006, il n'y a quasiment que des bons matchs. La finale de Dubaï, par exemple, bon, c'est pas le plus gros tournoi, on s'en rappelle pas forcément, mais il y a vraiment un excellent match avec un Federer. Qui vole vraiment sur le court au premier set, hein, si je me souviens bien, et puis ensuite Nadal qui va l'accrocher et qui va finalement l'emporter. Ça, c'est vraiment un très bon match, même le match qui conclut cette année 2006 au Masters, remporté par Federer, au Masters à Shanghai. Lui aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, là aussi avec un Federer impressionnant en indoor. Et puis des bonnes surprises, finale de Roland-Garros 2011 aussi, qui est quand même assez accroché
jusqu'à l'amorti. J'ai ce souvenir de l'amorti qui va dans le filet, ou je sais plus si c'était Federer qui avait un break ou quelque chose comme ça, qui menait 3-1 ou quelque chose, qui avait une grosse avance, et cet amorti qui rate et que derrière Nadal prend le premier set. Et
ah oui,
ouais, Federer est au contact quasiment tout le match, hein. Il perd, je l'ai plus tout à fait en tête là comme ça, hein, mais il perd les manches, mais à chaque fois de justesse. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était parce qu'on a toujours dans notre imaginaire collectif un peu l'impression que les finales de Roland Garros, Federer Nadal, ça n'a pas été les matchs les plus mémorables. Mais bon, je dis pas que c'est un match non plus incroyable, hein, mais c'est un vrai bon match, cette finale de 2011. Et puis, comme tu l'as dit, Rémi, les derniers matchs. Les deux en 2019, la demi-finale à Roland-Garros, le niveau exceptionnel, surtout dans les conditions, il y a un vent
horrible.
Donc c'est franchement jouer à proposer un tel niveau. Bon, Nadal est évidemment monstrueux, mais Federer, franchement, il est pas si loin que ça, même s'il se prend 3-7. Bon. Et puis la fin de match du dernier, le 40e à Wimbledon, franchement, je vous conseille de regarder les derniers jeux. Il y a Nadal qui sauve des balles de match d'une manière incroyable. Finalement, la fin de match, elle est sublime.
Même si, je ne sais pas si tu étais de cet avis, j'avais trouvé que sur l'ensemble du match, Nadal était peut-être passé un peu à côté de son sujet par rapport à ce qu'il avait montré avant, notamment, je me rappelle de ce match contre Kyrgios, et qu'il arrivait vraiment très très en forme par rapport à Federer, qui avait fait des premiers tours un petit peu compliqués. Et je trouvais que ça s'était totalement inversé sur ce match. Nadal était un peu trop tendre et passé à côté, s'est réveillé peut-être sur la fin, mais finalement, le mal était déjà fait.
Oui, et par rapport à son début de tournoi, je suis d'accord, ouais, il est moins bien. Pourtant, il y a une déclaration de Carlos Moyà qui dit fait tout bien, il n'y a rien à dire, il est parfait. C'est quand même bon signe quand ton coach dit ça. Et effectivement, il passe pas à côté de son match, Federer, mais il est un petit peu en dessous et ça explique que Federer peut-être passe en 4-7.
Puis c'est peut-être aussi une époque où Federer a repris un peu le dessus psychologiquement, même si Nadal vient de le rebattre à Roland-Garros. Bon, parce que Roland-Garros, c'est quand même sa forteresse. Hein. Mais depuis un an ou deux, c'est vrai que Federer avait repris un peu le dessus psychologique sur Nadal, et peut-être que ça a pesé sur cette demi à Wimbledon. Hein.
C'est clair. Et peut-être qu'on peut pousser aussi plus loin. On sait que depuis 2019, c'est là où Nadal a un peu changé son style de jeu avec son nouveau service, aller dans une filière beaucoup plus courte. Et ben peut-être que ce nouveau Nadal, avec ses repères différents, cette zone de confort dans laquelle il n'est plus, peut-être est moins performant face à des Djokovic et des Federer sur d'autres surfaces que la Terre.
Ouais, c'est possible. C'est possible, ouais. C'est vrai qu'il avait fait pas mal de changements cette année-là. Mais il était revenu. Il avait fait un petit retour en arrière. Il avait changé son service pendant l'intersaison entre 2018 et 2019. Il avait changé son mouvement de service. Cette année-là, donc en début d'année, il va en finale en Australie. Il se fait corriger par Djokovic. Ça lui met un petit coup au moral quand même. Après, derrière, il a un gros coup de mou en arrivant en début de saison sur terre battue. Et il revient en arrière à ce moment-là. Il revient dans sa zone de confort. Il reprend son sujet de service. Donc c'est vrai qu'il y a une zone un peu flou, il a un très haut niveau, hein. Il gagne Roland, il gagne Rome, hein, on s'en motive justement. Il continue à être un très haut niveau, mais c'est quand même malgré tout une période où il se pose peut-être des petites questions qui ont fini sans doute par le rattraper sur cette demi à Wimbledon. Et puis contre un Federer qui est quand même au top niveau, hein. Il le prouve en finale aussi, et même s'il perd donc cette finale d'anthologie contre Djoko, mais il est quand même à un niveau stratosphérique, à bientôt 38 ans, quoi.
C'est clair, il y a Wimbledon. Et c'est vrai que certains à Wimbledon aussi disent, parce qu'on pense souvent à Wimbledon 2008, mais qu'on oublie aussi cette finale en 2007, qui peut-être, d'un point de vue tennistique, surpasse peut-être 2008. Je ne me suis pas revisionné récemment les deux, mais vous deux qui avez vu les deux finales, qu'est-ce que vous en gardez en tête? Parce que c'est vrai qu'on oublie peut-être trop facilement Wimbledon 2007.
La finale 2008, je pense qu'elle atteint un niveau en valeur absolue, elle atteint un niveau supérieur, mais seulement sur les deux derniers sets, on va dire. La finale 2007, elle est constante du début à la fin. C'est un des rares matchs d'ailleurs, parce que souvent dans les fédales, il y a il y a des moments sublimes et des moments de creux un petit peu aussi, parce que voilà, c'est comme deux boxeurs qui se jaugent, quoi. La finale 2007, elle est sublime, hein, du début à la fin quasiment. La finale 2008, elle est encore plus sublime, mais seulement sur les deux derniers sets. Pendant deux sets et demi, c'est vraiment à l'avantage de Rafa. Federer, il est un petit peu KO, il a encore cette finale de Roland en tête, hein, où il s'est fait découper. Après, il y a une interruption pluvieuse au milieu du troisième set qui lui fait beaucoup de bien. Il se fait secouer les puces par Mirka dans les vestiaires. Il revient, il se remet dedans, et là, ça atteint vraiment un niveau stratosphérique, notamment à la fin du quatrième set, dans ce tie-break d'anthologie. Et après, le cinquième set qui est également énorme, surtout vu le contexte, avec à nouveau des interruptions pluvieuses. La fin de match qui se fait un petit peu la bougie. Malgré ça, les deux, ils jouent. Voilà, c'est sublime pendant les deux derniers sets, quoi. C'est un peu moins pendant les trois premiers, c'est vrai.
peut-être la dramaturgie qui est supérieure dans la finale de 2008 parce qu'on a atteint des sommets de suspense, tu l'as dit, avec ces interruptions, le fait que Nadal mette 2-7-0, que Federer revient, et puis ensuite on termine dans la lumière du crépuscule, center court de Wimbledon, les deux meilleurs joueurs presque de tous les temps.
De ce que j'ai vu, ça se joue à un jeu, c'est ça, d'être décalé le lendemain.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a eu Pascal Marie au téléphone. Ouais, il l'avait déjà dit. Hein, en fait, il a déjà pris la décision. Si Nadal, donc, qui fait le break, ne remporte pas son jeu de service, il remet le match au lendemain parce que le hockey ne marche plus. Enfin, on n'y voit plus rien. Et Nadal, il y va au filet. Voilà, il ferme les yeux et il essaye de finir et ça passe.
Ouais, ça lui fait peut-être du bien d'ailleurs, parce que là, Nadal, il mouille un petit peu.
Il a appris de 2007, parce que c'était une défaite traumatisante.
C'est vrai, mais bon, il sert pour le match. Enfin, le donne, c'est le tournoi qui lui tient à cœur, peut-être encore plus que Roland Garros. Hein, et c'est le tournoi dont il rêve depuis le début de sa carrière et dont on lui a toujours dit qu'il ne le gagnerait jamais. Donc en plus, rajouter ça. C'est vrai qu'au moment de servir pour le match, il ne le cache pas, il mouille. Hein, il mouille. Peut-être que ça le sert, cette ambiance un peu crépusculaire, parce que comme dit Christophe, on n'y voit plus rien, donc il y va les yeux fermés. Et il joue service volé ce dernier jeu quand même. Il fait 2 ou 3 points, service volé, il n'a quasiment pas fait du match. Et là, il y va. C'est aussi là où on voit quand même le cran et l'intelligence tactique aussi. Mais surtout le cran, je pense, parce qu'il faut quand même y aller hein, quand on sert pour le match à Wimbledon.
Contre Federer,
service volé. Il fait 3 fois service volé de mémoire. Il y a une fois où il se fait trouer. Mais il y va, quoi. Il y va et voilà, il a peur. Comme tous les joueurs de tennis, il a peur, il mouille. Sauf que lui, il surmonte ça et, ouais. et il y va, quoi.
Je pense que le traumatisme de 2007, il me semble, là, je joue beaucoup et il se dit, celui-là, en tout cas, si je dois le perdre, je ne le perdrai pas en étant passif, quoi. C'est lui qui y va et il est récompensé avec ce titre, évidemment, et ce match exceptionnel. Et ô combien symbolique, parce qu'évidemment, c'est le match où il vient contester Roger Federer à Wimbledon sur ses terres. Donc évidemment, c'est un immense tournant dans leur rivalité, cette fameuse finale.
Ouais, d'autant plus qu'il derrière, il devient numéro 1 mondial, pas tout de suite, hein, mais de quelques semaines plus tard, il lui chippe la place de numéro 1 mondial. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est le tournant, quoi. Parce que on savait que les deux avaient chacun leur territoire, Nadal la terre et Federer le gazon. On savait que l'un des deux irait bouffer l'autre sur son territoire. Et Federer n'a pas été loin de le faire à Rome en 2006 dans un autre match d'anthologie. Et finalement, c'est Nadal qui est allé le chercher. Et c'est là qu'il fait. Il était déjà en tête dans les face-à-face, mais c'est là qu'il fait définitivement basculer, on va dire, l'avantage en sa faveur, quoi. Ouais, d'ailleurs, je me demande si on n'arrive pas à ce moment-là, quasiment au maximum de leur écart dans les face-à-face, quoi.
C'est possible.
Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il le bat encore après en Australie en finale en 2009.
Ouais, mais c'est encore un match de l'écart. Ouais. Et du coup, à votre avis, pourquoi cette rivalité plaît autant, fait autant parler qu'est-ce qui marche chez ces deux joueurs?
Ouais, je pense qu'il y a un aspect un peu mystérieux. Hein. Pourquoi est-ce que certaines personnalités déclenchent une telle passion? Il y a un ingrédient qu'on ne connaît pas. Mais si on veut trouver des raisons un peu plus cartésiennes, je pense qu'il y a plusieurs choses. On en a parlé déjà pas mal. La qualité des matchs, c'est-à-dire qu'on a eu des dramaturgies incroyables. Hein, la finale de Wimbledon 2008, toutes les planètes sont alignées pour faire le match inoubliable. Il y a le fait aussi qu'ils sont joués très régulièrement et en finale des grands tournois très souvent et à la suite. Donc je pense que ça a donné un côté feuilleton et que les gens avaient envie de voir l'épisode suivant après la défaite de Nadal et de Federer. On veut voir ce qui se passe au prochain épisode. Et puis le dernier élément, je pense, qui est important, c'est le fait que ce sont deux personnages très marqués, avec une vraie opposition de style. Hein. Ils se ressemblent pas du tout, aussi bien au niveau du style vestimentaire, de l'attitude, du jeu, enfin, tous les opposent. Et c'est pour ça que je pense que chacun a pu s'identifier à l'un ou à l'autre. Et ce processus d'identification a fait qu'il y a une énorme passion pour l'un ou pour l'autre, avec les pro Roger, les pro Rafa, qui au début ne pouvaient pas trop se sentir.
Non, c'est vrai. Ils pouvaient pas. Mais c'est dur de pas d'aimer les deux, parce que effectivement, quand on aime vraiment le tennis, quand même, je pense qu'on aime malgré tout les deux. Mais c'est dur d'être fan des deux. C'est dur de s'identifier aux deux, parce que quand on s'identifie à un joueur, on s'identifie forcément aux valeurs hein, qui peut véhiculer, et les deux véhiculent des valeurs tellement différentes entre... Voilà, Federer, c'est plus cette espèce d'esthète avec la beauté du geste, le talent, la fluidité, et Nadal, ça va être comme on l'écrit dans le bouquin, d'ailleurs, c'est un peu le parangon de la combativité, de la détermination. Chacun va être touché, se retrouver un petit peu là-dedans, mais c'est vraiment des valeurs très opposées, donc c'est dur de... C'est ça aussi, d'ailleurs, qui contribue à faire le sel de leur rivalité, hein, c'est cette opposition de style qu'on ne retrouve pas forcément avec un Nadal-Djokovic ou un Djokovic-Murray. Et l'opposition de style, c'est quelque chose de très fort et qui marque les rivalités, peut-être plus qu'aucun autre ingrédient. Hein. C'est ça qui a marqué aussi Borg-McEnroe, c'est ça qui a marqué Agassi-Sampras. On a vraiment deux jeux complètement antinomiques et complémentaires d'une certaine manière. Quoi. Voilà. Peut-être que le seul ingrédient qui leur a manqué, entre guillemets, pour que ça devienne encore plus mythique, c'est qu'ils se foutent sur la gueule, tout simplement, alors que depuis le début, ils se sont appréciés. Mais je crois qu'au final, les plus grands rivaux finissent à un moment donné de leur carrière par se respecter, quoi. Mais souvent, ça vient après. Eux, ça a été dès le début. C'est peut-être une spécificité. Dès le début, ils se sont respectés et appréciés.
Et du coup, tu parles d'ingrédients. Pour vous, c'est quoi les ingrédients d'un bon Fédal? Après en avoir vu autant, est-ce qu'il y a des points communs qui fait que ben là, ce match, franchement, il y a tout qui était en place. Là, on a eu vraiment un énorme Fédal.
Ben, pour moi, l'ingrédient numéro un, je vais peut-être heurter en disant ça, je ne sais pas si Christophe sera d'accord avec moi, mais l'ingrédient numéro un, c'est Federer, en fait. J'ai envie de dire que Nadal est souvent, évidemment plus ou moins, à des nuances près, mais il est quand même, d'une manière générale, égal à lui-même. Quoi. Federer, moins. Il est un peu plus fluctuant contre Nadal, en tout cas. Et souvent, les meilleurs Fédals, c'est tout simplement les jours où Federer a été le mieux. Ces jours-là, quasiment tout le temps, à part quelques matchs en indoor, parce que sur des surfaces très rapides, il a quand même été au-dessus, Federer. Mais la plupart du temps, quel que soit le niveau de jeu présenté par Federer, Nadal arrive à relever le défi. Il ne gagne pas forcément à la fin, mais en tout cas, il arrive à lui donner la réplique. Il y a eu des matchs, en revanche, où Federer est passé à côté. Et voilà, et là, même s'il y a eu des bons passages dans le match, Nadal lui a finalement dominé, quoi. Donc moi, c'est ça pour moi l'ingrédient numéro un. C'est Federer. Les jours où Federer est bien luné, ça fait toujours un bon Fédal. Quasiment. Même les matchs à sens unique au Masters dont tu parlais, moi j'ai été impressionné en revoyant les matchs au Masters du début de leur rivalité. De toute façon, le Masters, c'était toujours au début de leur rivalité. Même quand Nadal prend une tôle, j'ai été impressionné en revoyant les images de la vitesse à laquelle ça joue, quoi. Alors Federer était au-dessus, au service notamment, il était injouable en indoor sur une surface très rapide. Voilà, mais c'était assez monstrueux ces matchs-là. Voilà, l'ingrédient numéro un pour moi, je dirais que c'est Federer pour répondre à la question.
Mais il va s'attirer les foudres des Nadaliens, à mon avis.
Je sais pas. C'est pas ça l'ingrédient pour toi, Christophe?
Si, non, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que notamment au début de la rivalité, on a l'impression que effectivement la réussite du match, le niveau de jeu va dépendre surtout de Roger. Ouais. On a remarqué ça. Et il y a pas mal de matchs où d'ailleurs. Je pense à notamment Dubaï 2006 où il est complètement en contrôle. Et on sent aussi l'ascendant psychologique qui est en train de prendre Nadal sur lui, parce qu'il va se mettre à louper des coups droits notamment. Voilà, il y a quand même un truc assez récurrent hein, de Federer qui se met à dérailler en coups droits sur des points hyper importants dans un set décisif. C'est quand même un scénario qu'on voit hyper régulièrement en 2006. Et donc c'est amusant, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'est intéressant de voir ces schémas récurrents et puis de voir certainement cet avantage psychologique qui a été pris petit à petit par Nadal à cette époque.
Et du coup, comme tu parles de schéma, est-ce qu'en revisionnant, vous avez découvert des nouveaux schémas où finalement ça reste très classique, Nadal, voilà, gaucher, balle haute sur le revers adverse, après il isole sur son côté revers, il attaque après longue ligne, et Federer après 2017 qui a réussi à prendre ce revers plus tôt, donc qui a réussi à priver de temps l'Espagnol, est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que vous avez réussi à avoir d'autres schémas, d'autres trucs qu'on ne pense pas forcément et qui ont fait la différence dans leur affrontement?
Oui, je pense par exemple, il y a un match qui me revient en tête, c'est une finale de Monte Carlo. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 2007, parce qu'il y a eu son jeu plusieurs fois d'affilée en finale. Je crois que c'est celle de 2007. On a toujours en tête ce schéma caricatural, hein, finalement, de Nadal qui va bomber son coup droit sur le revers de Federer. Et cette finale-là, il explique en fait qu'au début du match, il est dominé, même assez largement dominé. Et finalement, il s'en sort en 3-7, je crois. Je n'ai plus tous les détails en tête. Mais en tout cas, il est dominant au début de match et il s'en sort. Et il explique après le match qu'il s'en est sorti parce qu'il a changé de tactique. Il est arrivé dans le match en disant « je vais pilonner le revers de Federer ». Et finalement, il dit « non, à un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai vu que Federer m'attendait au tournant tout le temps. » Et il se décalait tout le temps, en fait. Il jouait quasiment que des coups droits. Donc, j'ai changé radicalement. Je me suis mis à pilonner son coup droit et à essayer de m'ouvrir le terrain comme ça pour ensuite jouer l'attaque sur le revers de Federer. Et on s'aperçoit qu'il y a... Après, c'est vrai, après avoir vu sa conférence de presse, j'ai revu une partie du match et je me suis aperçu qu'effectivement, c'est flagrant. Et après, ça m'a servi pour d'autres fédales où, en fait, c'est pas si flagrant que ça que Nadal va détruire le revers de Federer. C'est beaucoup au début, mais finalement, à un moment donné, il change. Il change et il va pas mal chercher Federer sur son coup droit. Parce que, bon, évidemment, Federer a réagi aussi. Hein. Et Federer aussi... va l'expliquer, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de leur duel. Federer connaît énormément de fautes en coup droit, et même souvent dans des moments critiques. À un moment donné, un journaliste ne s'arrête pas, lui finit par lui poser la question, il dit oui, c'est normal, parce que non seulement contre Nadal, je prends plus de risques, je suis obligé, parce qu'il défend comme un lion, mais en plus de ça, je frappe tout simplement beaucoup plus de coup droit, je fais quasiment que des coups droits avec lui, parce que je me décale beaucoup plus, parce que comme il est gaucher, quand même, sa balle a tendance à naturellement me venir un peu plus sur le revers, donc je couvre ma partie de terrain beaucoup plus à gauche que d'habitude. Et voilà, donc il y a des schémas qui finissent par s'inverser un petit peu comme ça, c'est assez intéressant en fait.
Oui, on remarque parfois, moi ce qui m'a marqué aussi, c'est parfois c'est pas forcément très visible, très perceptible, mais Nadal qui va légèrement changer d'un coup ses zones au service alors qu'il est un petit peu en difficulté au début d'un set. Et ce sont des petits ajustements qu'on a essayé de faire remarquer dans le livre et qui finalement arrivent à changer la phase d'un match. Je me souviens d'une finale à Roland-Garros où je ne sais plus laquelle, mais en gros, il est malmené et il vient de perdre un set. Et au début du deuxième, en plus, il y a le public qui commence à pousser pour Roger. Enfin, ça commence à être un peu chaud pour Rafa. Et ben, il change ses zones. Voilà, il change ses zones de service au lieu d'aller systématiquement sur le revers parce qu'il le fait quand même, 70-80% du temps.
Ouais, plus que ça.
C'est un changement presque. Il faut vraiment regarder le match de très près pour le voir. Et ça suffit à faire des rayés Federer. Donc c'est intéressant de voir effectivement tout au long de leur match ces petits ajustements tactiques qui parfois font des grosses différences.
Mais par contre, globalement, ça, c'est vrai que je m'en suis aperçu aussi en comme on a regardé pas mal de matchs sur Tennis TV, la plateforme de l'ATP. Donc il donne beaucoup de stats intéressantes par rapport à ça. Et on s'aperçoit que c'est au service surtout que Nadal va chercher le revers de Federer. Mais il y a certains matchs et on est à au-dessus de 90% de service sur le revers. Alors comme dit Christophe, après il y a des moments clés où il va chercher ses zones. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Il y a un châtelain qui passe.
Ça va bien.
Il y a certains matchs où il va chercher, il change un peu de zone, mais c'est au service, beaucoup plus qu'en coup droit, c'est au service qu'il va chercher le revers de Federer, et notamment au début de sa carrière. Et en revanche, le schéma inverse est vrai pour Federer aussi. Hein. Au début de la rivalité, il va beaucoup chercher le revers de Nadal. Et il se fait, à la tournure des années 2008-2009, il continue d'aller chercher le revers de Nadal, sauf qu'entre-temps, Nadal a progressé comme jamais en revers. Notamment la finale de l'Open d'Australie 2009. Il y a une stat aussi qui est communiquée par le diffuseur, je ne sais plus quel c'est, mais qui dit que Nadal frappe quasiment 50% de revers... J'ai plus le chiffre français, mais un chiffre beaucoup plus élevé que d'habitude en fait. Donc Nadal refuse moins son revers parce qu'il a énormément progressé et je pense qu'il Federer se fait un peu avoir comme ça aussi. Ouais.
C'est intéressant ces revisionnages. Et du coup, dans ces 40 matchs, si vous deviez chacun en retenir un seul, ça serait lequel ?
Moi, parce que voilà, je me souviens d'avoir vraiment vibré pour ce match. Je pense que je choisirais. C'est peut-être pas le plus beau en termes de niveau de jeu, mais je trouve qu'en termes de dramaturgie, de contexte, pour moi, et puis ça représente vraiment le Fédal. Pour moi, c'est l'Open d'Australie 2017. Hein. Parce que voilà, avec ces deux champions qu'on pense sur le déclin, qui reviennent après plusieurs mois d'absence, et qui se retrouve en finale du premier Grand Chelem de l'année. Il y a un côté un peu retour vers le futur, un peu nostalgique, et ça marche bien. Hein. Donc, et puis le match est quand même, moi je trouve, à la hauteur, même si il manque effectivement peut-être un tie-break.
J'aurais plus dit peut-être une constance, parce que c'est vrai que ça faisait vraiment des hauts et des bas jusqu'au 5e set monumental.
Mais bon, le cinquième, quand même, il faut voir le début de set de Nadal, il est costaud quand même. Hein. Donc, il y a quand même un énorme Federer pour venir débriquer. Enfin, il y a une tension folle. La balle de match avec le challenge. Et puis, tout simplement, le retour des héros, je crois que c'est ça. Donc, moi, si je devais en retenir, en tout cas, celui où j'ai le plus vibré, c'est celui-ci, je pense.
Et toi, Rémi ?
Ouais. Moi, je ne vais pas être original, mais je vais dire quand même la finale 2008 de Wimbledon 2008, parce que c'est, pour moi, c'est leur match le plus mythique, quoi, qui a même été pour beaucoup, c'est le plus beau match de tous les temps. C'est vrai que c'est le match le plus symbolique, et avec, par le scénario, par le niveau de jeu quand même. Et plus spécifiquement, la fin du tie-break du quatrième set de ce match-là, où il y a un passage entre 6 partout et 7 partout au tie-break, je crois, où les deux frappent successivement deux points monstrueux. Il y a Nadal qui frappe un passing de coup droit absolument hors norme pour s'offrir une balle de match, que Federer va sauver d'un passing de revers monstrueux, alors qu'il n'en a pas frappé un du match. Il le dit lui-même après le match. Il dit, c'est le premier passing de revers que je réussis du match, mais il le frappe au bon moment pour sauver une balle de match et pour amener Nadal au cinquième. Moi, c'est ce match-là. Ouais. C'est ce match-là. En plus, j'y étais. C'était une ambiance complètement lunaire. C'est un moment de sport que j'oublierai jamais de ma vie. Quoi. Ça, c'est sûr.
Ouais, surtout d'être sur place, de voir avec la nuit tombée, etc. C'est clair que ça, je pense, que c'est un sacré tournant et ça reste gravé dans les mémoires. Donc, je pense que c'est aussi un match qui est très très intéressant. Et le Open d'Australie aussi 2017, c'est aussi quelque chose de les revoir. En plus, de l'autre côté, on a Serena et Venus.
Oui, exactement. Ouais.
Ça faisait une sacrée image de, comme tu dis, retour vers le futur. C'était de sacrés souvenirs. Après, on pense aussi à Rome 2006.
Oui, qui est énorme.
Qui est presque 5 heures ou peut-être plus de 5 heures, je ne sais plus, les balles de match joué.
Il est violent celui-là. Il y a vraiment beaucoup de violence. Sans que Federer, il est bien décidé à le faire tomber sur terre battue. Et franchement, il fait le match presque parfait. Et il a ses deux balles de match. Encore une fois, le coup droit qui déraille. Mais il y a tout dans ce match. Hein. Federer fait vraiment tout ce qu'il doit faire sur terre battue. Il trouve le bon équilibre entre être tout le temps agressif et en même temps ne pas monter au filet en chaussettes, en pantoufles, comme on dit, pour se faire passer par Rafael Nadal. Donc, il fait presque tout bien. Mais ensuite, Nadal sur terre battue, qui est capable, même si Federer aussi son niveau, lui aussi, de suivre comme ça. Il faut vraiment le revoir, celui-là. Il est incroyable.
En plus, il y a une brouille là, entre les deux dans ce match-là. Parce qu'on parle de leur entente cordiale, hein, qui est vrai, hein, il y a beaucoup de respect, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des petits passages de l'année, notamment dans ce match. Hein.
Ouais, ils se font quand même, au printemps 2006, là, enfin, moi j'ai remarqué ça, ils se font quand même des sales coups. Hein. Déjà, Monte Carlo, alors ça ne se voit pas trop, mais Federer est très énervé parce qu'il y a déjà, en fait, il y a Tony Nadal, il est un peu dans l'angle mort de l'arbitre et il ne se gêne pas du tout pour coacher son neveu, franchement, enfin, voilà. Il le remarque et ça l'énerve. Ensuite, il y a même, je ne sais plus à quel moment, il y a une pause un peu tactique. Je ne sais plus si c'est Federer ou Nadal, un des deux qui va aux toilettes à la fin. Non, c'est Nadal, je crois, à la fin d'un set. Enfin, bon, en gros, tous les coups sont permis quand même. Hein.
Ils ont inventé le toilet back. Hein. C'est eux qui ont inventé le toilet back.
Ouais,
ils
l'ont inventé. Il
dure quoi. Les deux.
D'ailleurs, pour revenir à Rome, oui, il y a cet incident où effectivement, donc pareil, Tony Nadal ne se gêne pas pour apparemment coacher Rafa, et à un moment du match, Federer explose, il crie "Shut up Tony", donc tais-toi Tony, et après en conférence de presse, on lui demande, alors c'était qui ce Tony, est-ce que c'était Tony Roche qui est l'entraîneur de Federer ou un autre Tony, et il répond, non, c'était Tony Nadal parce que j'en ai marre de le voir en permanence coacher. Donc, et ça a mis vraiment un petit froid dans leur relation, parce qu'ensuite, une déclaration de Nadal qui dit Federer doit apprendre à perdre en gentleman. Donc quand même, il lui envoie un bon petit scud.
Ouais, c'est un peu un couple, hein, les deux. Hein. Ils s'aiment, hein, mais il y a eu des disputes, hein, quand même.
C'est ça, voilà. Ils n'ont pas traversé ça tranquillement. Il y a eu différentes phases avec des petites turbulences.
Ouais, non, forcément, ouais. Ils se sont pris la tête aussi à un moment donné sur des histoires de gouvernance du tennis. Au moment où les deux étaient impliqués dans le conseil des joueurs de l'ATP. Il y avait pas mal de discussions au début des années 2010 sur la réorganisation du calendrier. Nadal était assez actif là-dedans. Et il a reproché à Federer d'être un petit peu trop lisse, un petit peu trop neutre et de dire toujours à tout le monde « tout va bien, oui, oui ». Et finalement, de passer pour le gentleman à chaque fois. Donc là, il lui a balancé un petit scud. Ils se sont aussi pris la tête sur des histoires de surface du Masters où Nadal milite depuis des années pour que ce soit sur terre battue. Federer lui a répondu que, bon, que l'indoor avait déjà assez perdu de plumes dans les calendriers au fil des ans et que c'est bien que cet événement reste un indoor. Bon, moi, je trouve que les deux points de vue se défendent. Hein, donc, fidèle à notre ligne, je vais rester suite et neutre là-dedans. Mais ils se sont pris la tête, ouais. C'est pas, ça n'a pas toujours été tout rose. Ouais.
Ok. Et par rapport à des projets futurs, les deux sont à 40, mais il y en a, enfin, il y a deux autres duos qui font mieux. Le Federer-Djokovic, où c'est 50, il me semble, affrontement, et le Djokovic-Nadal, où c'est 58.
Exactement.
Ouais. Est-ce que vous avez tous les deux d'autres projets pour une autre rivalité marquante? Comment vous voyez le futur?
Ça va dépendre des gens. Non, mais s'il y a de la demande, ça va dépendre des ventes aussi.
Oui, on va voir déjà le premier si ça fonctionne avant de se pencher sur les autres.
Oui, ben voilà, là, le bouquin vient de sortir, donc on a besoin d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Et s'il y a de la demande, et c'est vrai que j'ai vu qu'il commençait à en avoir un petit peu quand même. Hein. Tu n'es pas le premier à nous proposer ça. Donc, si on voit que la demande se multiplie, on commence à y réfléchir.
Ouais, c'est voilà, intéressant. C'est vrai que aussi bien les Federer Djokovic que les Djokovic Nadal, il y a vraiment de quoi dire. Il y a quand même des matchs incroyables. Oui, pardon, vas-y, Rémi.
Non, mais qu'est-ce qu'on fera en priorité si on en fait un deuxième? Federer Djokovic ou Djokovic Nadal?
Bonne question.
Qu'est-ce que tu dirais, toi? Mais toi, t'es Nadalien, donc tu...
Ouais, donc je dirais Nadal Djokovic. Après, c'est vrai que après, c'est pas la suite de la carrière de l'un et de l'autre, parce que les deux, pour le moment, sont pas là, hein, sont pas sur le circuit. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on dirait qu'on a plus de chances de revoir des Nadal Djoko que des Federer Djoko. Donc peut-être, écrire Federer Djoko, parce qu'il y a peut-être d'autres Nadal Djoko qui vont s'écrire. Mais c'est clair que le Nadal Djoko sera ultra intéressant. Mais bon, là, c'est pas 100 heures de travail qu'il faut bloquer, vu la durée de leur match, entre les changements, etc.
On va prendre une année sabbatique, là. Ouais.
C'est ça. Je pense que là, c'est un autre confinement qu'il faut.
Rien que la finale de l'Open d'Australie 2012, qui dure 6 heures, voilà, ben, il faut prévoir, faut prévoir la semaine. Quoi.
C'est
thermos, de café et tout. Quoi.
Et du coup, après, même individuellement, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux d'écriture, de bouquins sur le tennis ou non, hein, mais il y a d'autres projets dans les tuyaux là où vous attendez vraiment de voir Fédal, ce que ça donne et ensuite pouvoir se projeter?
Non, pour moi, pour l'instant, les tuyaux sont vides. non, mais c'est un peu tout. Voilà. On vient juste de sortir le livre, on espère que ça va bien fonctionner. On sait qu'il y a, voilà, il y a un appétit, hein, pour tout ce qui concerne cette rivalité, donc on espère que le public va adhérer. Mais en tout cas, bah, c'est sûr que c'était un chouette projet, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc quand on a fait un livre, on a envie d'en refaire un derrière, donc on verra. Mais pour l'instant, il y a pas de... Enfin, de mon côté, en tout cas, je sais peut-être que Rémi me prépare quelque chose, mais...
Non, j'ai rien de concret, mais c'est vrai que j'ai adoré aussi développer ce projet, et ça commence à me titiller de faire un deuxième volet, effectivement, sur une autre rivalité mythique, hein, sur Federer Djoko ou Djoko Nadal. Certains nous l'ont déjà proposé, nous l'ont même reproché. Hein. J'ai vu passer quelques messages en nous disant « Mais pourquoi vous faites Federer Nadal alors que Djokovic Nadal ou Federer Djokovic, c'est beaucoup plus marquant ?» Bon, ça se discute, hein. Ça, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est tout aussi marquant. Et d'ailleurs, on nous a aussi reproché le fait d'occulter Djokovic dans cette histoire, ce qui n'est pas le but. Hein. On va le rappeler encore une fois, mais on sort un livre sur Federer Nadal. À aucun moment, Désolé pour notre neutralité, hein. C'est peut-être un peu chiant, mais à aucun moment on va dire dans le bouquin que Federer et Nadal sont au-dessus de Djokovic. Hein. C'est pas du tout le but du livre. C'est simplement de mettre à l'honneur cette rivalité qui par contre est peut-être la plus marquante des trois en termes de. Je parlerai pas en termes de qualité de match ou d'intensité de match.
Et de passion.
Mais en termes d'audience et de passion. Ouais. Encore une fois, là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais Federer et Nadal ont une communauté de fans qui sont tout simplement plus nombreux que celle de Djokovic, tout simplement. Et ça, c'est pas un jugement de valeur de ma part. C'est peut-être une injustice d'ailleurs à l'égard de Djokovic, mais c'est juste un fait, un constat. Donc voilà. Donc moi, j'ai rien concrètement dans les tuyaux, mais franchement, si ça marche bien et si on continue à avoir de la demande, comme ça a l'air d'être le cas. Je pense qu'il y aura un deuxième, voire troisième opus. Ouais. Okay.
Et après, pourquoi pas un livre sur les trois, avec ce fameux débat de GOAT, sans forcément y répondre et se positionner, mais pourquoi pas un livre sur les trois, avec différentes approches sur cette thématique-là, par rapport à chacun peut marquer des points dans différentes catégories, ils ont tous leurs records. Pourquoi pas aussi quelque chose qui regroupe les trois joueurs.
Ouais, il faudrait peut-être attendre que ce soit fini, de voir... Djokovic peut faire, parce que là ça peut quand même beaucoup changer, mais oui il y aura clairement un truc à faire sur ce trio, parce que on a quand même les trois plus grands joueurs de tous les temps en même temps, donc c'est sûr qu'il y aura de quoi dire.
Et ce qui est génial, c'est qu'il reste à 20 grands chelems tous les trois.
Ouais, c'est
génial, oui et non, parce que je leur souhaite à chacun d'en regagner un. Mais j'aimerais qu'il reste à égalité, franchement, ça serait tellement drôle. Et puis ça serait tellement symbolique.
Ouais, pour l'histoire, ça serait quelque chose. Et du coup, ben, pour terminer un petit peu le mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de la période qu'on est en train de vivre actuellement? Djokovic qui était à deux doigts de faire le grand chelem, la jeunesse qui pointe le bout de son nez et qui va être de plus en plus présente, notamment l'année prochaine, sur les grands rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce renouvellement qui est totalement normal?
Je pense que, voilà, donc on est plutôt sur la fin quand même d'une ère, hein, même si Djokovic va encore jouer, que Federer et Nadal sont toujours actifs. Mais ce n'est pas la première fois dans le tennis qu'on se dit comment on va faire après eux. C'était le cas après des rivalités comme Borg-McEnroe, comme même Sampras-Agassi. Et puis à chaque fois, on se rend compte que les champions passent, mais finalement, quand même, le tennis reprend dessus, le tennis demeure. Et... je pense que ce sera le cas. Évidemment, on ne retrouvera jamais un Federer, on ne retrouvera jamais un Nadal. Faut pas chercher, ça ne sert à rien. Je pense qu'on ne retrouvera jamais un joueur qui va gagner 13 fois Roland-Garros non plus. Voilà, ça, il faut faire le deuil. Moi, je trouve qu'il y a des rivalités qui se dessinent, qui sont intéressantes, des personnalités. Je pense, par exemple, la rivalité Medvedev-Tsitsipas, deux caractères, deux joueurs qui ne s'apprécient pas trop. Bon, à la limite, c'est secondaire, opposition de style dans le jeu. Moi, je pense que ça peut être une rivalité. Bon, encore une fois, il ne faut pas être dans l'optique de la comparer à Federer-Nadal. Mais pour moi, ça, c'est une rivalité qui, par exemple, peut porter le tennis et avec d'autres. Hein, je pense qu'on va continuer à s'intéresser au tennis.
Ouais, je pense, je suis d'accord. Je pense que la nature fait bien les choses de toute façon et que Federer, Nadal et Djokovic s'éclipseront le jour où le tennis sera complètement prêt à voler de ses propres ailes sans eux. Je me demande même d'ailleurs jusqu'à quel point ils ne se sentent pas une responsabilité par rapport à ça. Au-delà du fait, évidemment, s'ils continuent à jouer, c'est parce qu'ils adorent ça et parce qu'ils en ont envie. Mais je me demande si, de manière sous-jacente, continue pas à porter cette responsabilité finalement, se dire le tennis a encore besoin de nous et à un moment donné il l'aura plus, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui la situation est moins fédale dépendante qu'elle ne l'était il y a 5 ans par exemple, quoi, parce que comme disait Christophe, là on a vu émerger des joueurs maintenant comme Medvedev qui vient de gagner son premier grand chelem, comme Tsitsipas ou Zverev qui sont vraiment bien installés quand même, hein, qui ont installé leur rivalité, leur personnalité, qui sont vraiment bien installés. Moi, en plus, on a une next gen qui arrive et qui est vraiment très intéressante avec un joueur comme Alcaraz notamment que je trouve vraiment, qui pour moi, pour l'instant en tout cas, hein, je vais peut-être me planter, mais j'ai l'impression que c'est lui un peu l'élu presque. C'est lui qui m'évoque le plus Federer et Nadal. Et Djokovic, et notamment plus Nadal parce qu'il est espagnol et parce que voilà. mais dans l'attitude, quoi, et dans cette précocité, dans cette attitude qu'il a d'être complètement dédié à son tennis à 18 ans. Et ça, je n'ai pas retrouvé ça tout de suite quand même chez Zverev et Tsitsipas, qui ont mis un peu plus de temps à mûrir. Mais voilà, donc pour répondre à la question, j'ai l'impression que progressivement, on en arrive à une époque là, qui est un petit peu moins Fédal dépendante. Et à mon avis, d'ici 2-3 ans, elle ne le sera plus du tout. C'est des joueurs qui vont nous manquer, mais comme dit Christophe très justement, le tennis a toujours survécu et survivra encore. Il faut que le tennis soit plus, joueur, soit plus grand que ses joueurs, hein, de toute façon. Donc ça sera le cas, c'est sûr, c'est sûr. Pas le choix.
Et du coup, on aura un 41e ou pas?
Je sais pas.
Impossible, hein. C'est pas impossible.
Impossible.
Le classement des deux qui sont en train de chuter, on n'est pas à l'abri effectivement d'une rencontre, précoce. Après, est-ce qu'on aura un 41e pour jouer un gros titre? Bon, il faut. Après, on prend des pincettes parce qu'il ne faut jamais les enterrer. Hein. On a bien compris que. Il faut jamais dire jamais parce que. On va pas refaire l'histoire. Donc, on va pas les enterrer. Mais bon, quand même, Federer 40 ans, Nadal 35 ans, les problèmes physiques, la probabilité de les revoir, en tout cas pour jouer un gros titre, bon, elle est extrêmement faible. Après, effectivement, pourquoi pas un 41e affrontement un peu plus tôt dans un tournoi. Pourquoi pas à l'US Open, parce que c'est le seul grand chelem où ils ne se sont pas joués. Et si c'est le cas, bah, on est prêt, Crémy, pour le rédiger, ce 41e.
Encore une fois, hein, la balle est dans le camp de Federer. C'est comme on disait pour l'ingrédient principal d'un bon Federer. Mais là, j'ai l'impression que la balle est plus dans le camp de Federer, parce que Nadal, à l'heure où on se parle, il vient de reprendre l'entraînement, j'ai vu. Bon, il a l'air quand même plutôt optimiste. Tony en a parlé sur le fait de reprendre début 2022. Donc, je pense que son retour est en bonne voie. Celui de Federer est un peu moins, parce qu'il voilà, il s'est fait quand même, il a subi une lourde opération il n'y a pas longtemps. Il était toujours en béquille là, récemment à la Laver Cup. Il a 40 ans. Donc, le retour de Federer est un peu plus incertain. Mais je pense qu'il va tout tenter pour le faire aussi, puisqu'il l'a dit. Donc, on va le croire. Après, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Mais la balle est dans son camp. Maintenant, si Federer arrive à revenir, bah, c'est pas dit qu'il se rejoue pas, ouais. Parce que comme tu dis, Christophe, en plus ils ont chuté, enfin lui en tout cas, Federer a chuté au classement, il est sorti du top 10, ils peuvent maintenant se jouer. Finalement, ça augmente leur chance, ouais, de se jouer.
En fait. Tout cas, ça sera un événement immense. Hein. Enfin, évidemment, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais alors plus le temps passe, plus c'est un événement en fait, le pédale. Donc là, ça sera énorme.
Bah, c'est ça. Puis au pire, ils se joueront dans une exhibition à la fin de leur carrière, ils vont remplir. Bah voilà, ils vont remplir le Camp Nou en faisant une exhibition là-bas, 100 000 personnes, et puis de toute façon, ils rempliront les stades jusqu'à la fin de leur carrière, c'est ça qui est assez sûr.
Donc ouais, affaire à suivre en 2022. En tout cas, merci beaucoup Christophe et Rémi. Ça a
merci
été très intéressant cet entretien, et ben, pour ceux qui n'ont pas encore lu et qui veulent un peu plus en savoir sur la rivalité de Federer et Nadal, je vous invite vraiment à vous procurer le livre Fédal aux éditions Flammarion. Et ben, merci à vous. Pour cet échange
merci à toi,
de qualité.
Merci, c'est cool. Bonne journée, merci, bravo pour ta chaîne YouTube et ouais, continue. Bravo. Tout ça.
J'espère que cet entretien t'aura plu. En tout cas, quel bonheur d'échanger avec deux auteurs passionnés et de relire un petit peu les 40 matchs entre ces deux légendes. Toi, si tu veux lire également Fédal, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dans les commentaires, tu nous dis quel est ton Fédal favori et pourquoi. Le jeu concours sera relayé sur Twitter, donc tu peux optimiser tes chances d'être tiré au sort. Nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.